La fin de la mission transpartisane à Paris, Simon Montu, un dernier rendez-vous la nuit dernière à l'Élysée avec le président de la République, Sonia Backès, présidente de la province sud, et membre de cette mission, sera en direct avec nous dès le début de ce journal. À point bout, la mobilisation des pompiers continue sur le dépotoir qui est en feu depuis au moins 2 jours. Ils ont atteint hier le cœur de l'incendie, mais le travail est particulièrement difficile. Le patrimoine historique à l'honneur ce week-end, plusieurs balades pédagogiques organisées par la ville de Nouméa ou encore l'association Témoignages d'un passé dans le cadre du mois du patrimoine en province sud. Moins d'une semaine après la reprise des bombardements au Moyen-Orient, les prix des carburants atteignent une nouvelle fois des sommets en métropole, une flambée qui pourrait se poursuivre. Les policiers appelés à se mobiliser en masse le 15 septembre prochain, des manifestations d'ampleur annoncées, les syndicats réclament une hausse significative du budget annuel de la police. Le sport, le football, 3e journée du championnat de France de Ligue 1. Lyon s'est imposé 3-1 sur Auxerre. En ce moment, le Paris Saint-Germain reçoit Monaco au Parc des Princes. Et puis le sport en Calédonie, veillée d'armes pour les amoureux de course à pied. C'est demain que se déroulera le 43e marathon international mobile de Nouméa. Bonjour, très bon week-end et soyez les bienvenus dans ce journal direction la métropole si vous le voulez bien pour débuter cette édition. Je vous le disais, les travaux de la mission transpartisane se sont achevés la nuit dernière à Paris avec une rencontre entre les membres de cette mission et le président de la République. C'était à l'Élysée. Bonjour Sonia Backès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, présidente de la province sud et membre de cette mission transpartisane. Sur ce dernier rendez-vous avec le chef de l'État, qu'est-ce qu'il en ressort et quel bilan vous pouvez faire de cette rencontre avec Emmanuel Macron ?
Il a été principalement, on a principalement parlé de nickel, mais il a d'abord été acté le fait qu'il n'y aurait plus de discussion sur l'avenir institutionnel avant la fin de ce quinquennat. C'était notre demande unanime au niveau de la délégation, c'est-à-dire qu'on considère que là, jusqu'à la fin du quinquennat, il faut se concentrer sur la relance économique, sur l'attractivité et sur la reconstruction et pas réaborder les sujets institutionnels tant qu'on n'a pas une nouvelle Assemblée nationale. Mmh. Donc ça a été acté. Et puis ensuite, sur les sujets nickel, une chose très claire, c'est-à-dire que le président de la République nous a indiqué qu'il ne laisserait pas de société chinoise reprendre le nickel calédonien.
C'est une bonne nouvelle pour la Calédonie ou ça vous inquiète un peu ?
Non, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les choses avancent bien avec les différents repreneurs qui sont positionnés. Les Émiratis du côté de l'usine du Sud, on a des Indiens, des Indonésiens et également des Émiratis sur les autres usines. Donc il y a des offres qui sont censées être finalisées. Le président de la République a parlé d'avant la fin du mois de septembre. Parce qu'il y a urgence, notamment sur l'usine du Sud, où il y a des besoins financiers importants dans les semaines qui arrivent.
Ouais. Sonia Backès, plus globalement, quel bilan peut-on tirer de cette mission transpartisane qui aura passé la semaine à Paris avec de multiples rendez-vous ?
Objectivement, un bilan très positif. Cette délégation transpartisane qui a été menée par Mila Kouloutou-Koumouli et à laquelle on a tous participé a quand même cocher toutes les cases de ce qu'on voulait, c'est-à-dire l'État va nous accorder ce dont on a besoin pour finir l'année. C'était 61 millions d'euros qui manquaient pour que les collectivités puissent finir tout simplement l'année et payer les retraites, les régimes sociaux, etc. Et puis est inscrit a priori au projet de loi de finances pour 2027 les sommes dont on a besoin également, même si là, il y a une incertitude un peu plus importante parce qu'on ne sait pas exactement quel sera l'avenir de ce projet de loi de finances puisqu'on comprend bien qu'il n'y a pas de majorité en métropole pour le voter. Mmh. Donc, il y a plusieurs issues possibles, soit des ordonnances. Dans ce cas-là, ce serait le projet du gouvernement tel qu'il était préparé au départ, c'est-à-dire avec les bons montants pour nous qui passeraient. Mais si... il y a des options dans lesquelles finalement c'est le budget de l'an dernier qui repasse et dans ce cas-là c'est pas forcément bon pour la Nouvelle-Calédonie. Donc tout ce qui a été accordé par le Premier ministre, par le Président de la République, par la ministre des Outre-mer, ça correspond exactement à ce qu'on souhaitait. Maintenant, il faut voir quel sera le destin de ce projet de loi de finances.
Donc bilan plutôt positif, hein, vous le disiez, même si rien n'est gagné.
De notre côté, on a coché toutes les cases.
C'est ça.
Maintenant, les choses sont plus dans nos mains. Hein, de savoir s'il y aura censure, s'il y aura dissolution, s'il y aura rejet pur et simple, enfin bon, au 49-3, toutes les options sont possibles et là, franchement, on n'a pas la main.
Sonia Bacchès, une dernière question un peu plus légère. Je consultais ce matin vos réseaux sociaux. J'y ai découvert un post qui concerne une émission qui est bien connue des Calédoniens. C'est L'Amour est dans le Pré, qui est diffusée sur M6. C'est une émission qui pourrait s'inviter en Nouvelle-Calédonie, si j'ai bien compris votre post.
Oui, exactement. Donc, j'ai rencontré la production de L'Amour est dans le Pré, tout simplement parce que, en fait, plus on fait connaître positivement la Nouvelle-Calédonie, avec non seulement nos paysages, mais aussi nos hommes et nos femmes calédoniens qui pourront se faire connaître à l'extérieur. C'est une émission qui est quand même suivie par 3 millions de téléspectateurs sur M6. Donc, L'Amour est dans le Pré est très intéressé pour venir en Nouvelle-Calédonie. Donc, pour ça, il faut qu'on ait un ou plusieurs agriculteurs qui sont célibataires, qui sont candidats, qui répondent au casting. Et comme ça, L'Amour est dans le Pré pourra venir en Nouvelle-Calédonie et on pourra avoir... soit un agriculteur qui trouve l'amour, ou en tout cas au moins un peu de publicité pour la Nouvelle-Calédonie.
Les inscriptions sont possibles, Sonia Bacchès ?
Oui, y a un QR code sur mon post Facebook, mais ce sera également dans plusieurs médias et sur les réseaux de la province sud dans les prochaines heures.
Merci beaucoup Sonia Bacchès d'avoir été avec nous ce matin en direct depuis la métropole pour évoquer la fin des travaux de la mission transpartisane. Merci Sonia Bacchès.
Merci beaucoup.
Et bonne soirée à vous. Au revoir.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 78% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS se disent rassurés par les annonces faites par le Premier ministre en réponse aux demandes d'aide de la mission transpartisane. Ils sont 22% à dire qu'ils ne sont pas rassurés. Merci de votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. En bref, c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, qui était hier midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, l'occasion d'un large tour d'horizon de l'actualité. Sonia Lagarde a été interrogée sur son premier bilan depuis sa réélection, sur ses chantiers prioritaires, notamment dans le domaine de la reconstruction, mais aussi sur la situation globale de la Nouvelle-Calédonie et sur l'actualité politique. Interview de Sonia Lagarde qui sera rediffusée demain soir juste après notre édition de 17h45 et qui est disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Et puis ce matin, à partir de 11h, nous vous proposerons la rediffusion du Club Politique Radio Rythme Bleu. Au sommaire, le bilan de la mission transpartisane après l'annonce par le Premier ministre du renouvellement de l'aide de l'État pour la Nouvelle-Calédonie. Les consultants du club ont également évoqué le Forum des îles du Pacifique qui était réuni à Palaos et l'affaire Matthew et Hunter, alors que le Vanuatu veut saisir de la question la Cour internationale de justice. Ils ont enfin commenté le communiqué publié par l'UPM après la réunion de son comité central. Club Politique est disponible également en audio sur notre site internet. En bref, au chapitre des faits divers, de nouveaux caillassages sont survenus hier soir au Mont d'Or, dans le secteur de la route de Saint-Louis. Des véhicules ont reçu des projectiles. Il n'y a pas eu de blessés, précisent les gendarmes. Une enquête est ouverte pour identifier et retrouver les auteurs des faits. À Pointe-Bout, la mobilisation des pompiers continue sur le dépotoir qui est en feu depuis au moins 2 jours. Hier soir, les sapeurs-pompiers s'attaquaient au cœur de l'incendie, mais ont dû stopper pendant la nuit. Ils devraient reprendre leurs opérations ce matin. Les déchets sont une importante base de combustible pour le feu et le travail donc est particulièrement compliqué. Le maire de la commune, Yann Peraldi, recommande aux habitants de fermer leurs portes et fenêtres pour respirer au minimum les fumées. Les scientifiques calédoniens se préparent à la COP31. Hier, se sont achevés 3 jours d'échanges à l'IRD organisé par l'Association franco-australienne pour la recherche et l'innovation. Des chercheurs d'Australie, Nouvelle-Zélande, de Calédonie, bien sûr, et d'autres territoires du Pacifique ont présenté leurs recherches pour les transmettre ensuite aux politiques publiques et les faire entendre au sommet mondial sur le climat. Une thématique incontournable lorsque l'on parle environnement et territoires insulaires. L'océan, Sylvain Agostini, chercheur à l'IRD, travaille notamment sur les récifs coralliens résilients.
Bien sûr que les récifs coralliens sont essentiels, ils sont malheureusement menacés, alors que c'est le garde-manger, c'est la protection des côtes, c'est des traditions, etc. Et faire remonter dans les COP, à l'UNOC aussi bien sûr, l'importance des récifs et de leur conservation est essentielle. Le problème, et c'est ça qui est intéressant dans ce forum, c'est la transdisciplinarité. des différentes approches qui sont envisagées et qui sont mises en place et comment intégrer tout ça sur un Pacifique qui est fait de petites nations, souvent insulaires, et comment le mettre à l'agenda de ces énormes événements politiques que sont les COP.
Des messages qui seront portés à la pré-COP au Fidji en octobre, puis à la COP31 qui doit se tenir au mois de novembre en Turquie. La fin hier des Doctoriales 2026, une 19e édition marquée par la remise de 4 prix contre 3 habituellement. Le jury a choisi de décerner un coup de cœur à Émilie Tiawao pour son travail sur les violences intrafamiliales en Nouvelle-Calédonie au regard du pluralisme juridique.
Je suis très heureuse, je ne m'attendais pas à gagner un prix parce que j'avais déjà gagné un prix lors d'une précédente présentation. Donc c'est ma deuxième présentation, je ne pensais pas qu'on pouvait gagner un nouveau prix et encore moins un prix qui n'existait pas. Donc voilà, très heureuse. Ce prix représente pour moi l'opportunité peut-être de déjà débuter un peu l'association. Parce que du coup, j'ai ouvert mon association, mais sans fonds. Je suis actuellement en train de développer une application qui coûte plusieurs millions, mais du coup, sur mes fonds propres. C'est l'association INA qui la porte. Et cette application permettra de se renseigner sur ses droits, de pouvoir être orienté correctement vers les dispositifs adéquats et d'être géolocalisé quand on sera en situation de danger.
Un prix qui s'ajoute donc aux récompenses habituelles, la meilleure présentation des doctorants de première année, celle des étudiants de deuxième année et le prix de la meilleure perspective de valorisation.
Vous écoutez RRB, les 7h12.
Et c'est un week-end riche en activités qui débute aujourd'hui. Direction tout d'abord, Michael Juneski, le Nord, à Ouégoua, la fête du Diaot animera le village tout au long de cette journée.
Ils sont au programme un plateau musical, des stands variés ou encore des activités sur le fleuve de 8h à 20h. À Koumac, c'est la fête du nautisme qui fera vivre la commune de 8h à 16h avec notamment une course de va ou encore la régate des touques de Koumac. À Nouméa, place à la fête des sports aquatiques, à la piscine du Wentoro, natation synchronisée, apnée, hockey subaquatique sont notamment au programme. Les précisions de Vivien Chaillet, il est chef de la section piscine à la ville de Nouméa.
Il y aura 8 associations qui seront représentées avec le hockey subaquatique, la natation avec les deux gros clubs de Nouméa, le CNC, l'Olympique Natation, la natation synchronisée, l'apnée, les activités sous-marines et également le comité sport pour tous qui sera la seule activité qui sera en dehors des piscines avec l'activité speedball. Il y a des initiations, ce sera possible de par exemple faire des baptêmes de plongée pour les activités sous-marines ou de tester le hockey subaquatique où toutes les activités, en fait, tous les clubs vont proposer des initiations à leurs activités.
L'événement Fête du sport aquatique se déroule de 8h à 13h à la piscine du Wentoro. Enfin, les crabes de Palétuvier sont à l'honneur aujourd'hui pour la 4e édition du Fish Market qui prend place au marché de Nouméa depuis 6h et ce jusqu'à 11h30.
Culture également ce week-end avec la 32e édition du Mois du patrimoine en province sud qui se poursuit.
L'association Témoignages d'un passé organise une cyclo-rando ce matin au départ du musée maritime. L'après-midi, il y aura une découverte du mont Huot et de son histoire. Balade également à travers les rues de la ville de Nouméa, avec l'application Graal et les explications d'un médiateur culturel. Le départ se fera à 10h à la maison Higginson. Et enfin à Ploum, une exposition de jeeps et de matériel de la Seconde Guerre mondiale est organisée de 9h à 15h à la chapelle américaine de Ploum.
Un voyage dans l'histoire et plus particulièrement dans l'histoire de nos ancêtres, c'est aujourd'hui à Nouméa.
La ville organise une initiation à la généalogie aux archives municipales. Jean-Pierre Paladini, généalogiste amateur chevronné, donnera les clés pour débuter une recherche. Rendez-vous de 9h à 11h au 9 rue de la République au centre-ville. Et puis à Lansvata, la maison du livre réunit les éditeurs calédoniens dans son salon Lire un pays. Ça se passe aujourd'hui de 9h à 17h30 sur le site de l'ancienne polyclinique.
Et l'histoire toujours, mais musicale cette fois-ci, ça se passe à Païta. Les 30 ans de musique sont organisés aujourd'hui, c'est à l'Arène du Sud. Karaoké, concerts vont rythmer la journée. Rendez-vous de 8h à 21h donc à l'Arène du Sud. Et puis demain, les Petites Sœurs des Pauvres organisent un mini-marché à ma maison, c'est au Faubourg Blanchot, bien évidemment. À brocante, musique, danse et tombola au programme de 10h à 16h. Enfin, le traditionnel vide-grenier du centre-ville revient ce dimanche. C'est sur la place des Cocotiers de 7h à 12h30. Il est 7h15 sur Radio Rythme Bleu. Merci d'être avec nous. Excellent week-end. On marque une première pause dans ce journal dans un instant. L'actualité en métropole et dans le monde.
Ce samedi 5 septembre, le Fish Market revient au marché de la Moselle. Pour cette nouvelle édition, le crabe de palétuvier sera mis à l'honneur. Venez faire le plein de poissons et autres produits de la mer ultra frais, profiter des dégustations et rencontrer les pêcheurs professionnels. Vous aurez aussi l'occasion de faire tourner la roue du Fish Market pour tenter de gagner de nombreux cadeaux. Rendez-vous ce samedi de 6h à 11h30 au marché de la Moselle. Le Fish Market, du pêcheur à l'assiette.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
À toutes les Calédoniennes, comme chaque année, la Nouméa NOPT vous donne rendez-vous pour marcher ensemble contre le cancer du sein. Retrouvons-nous le dimanche 4 octobre à l'Hippodrome Henri Millard pour une matinée 100% féminine. Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Inscrivez-vous vite sur www.inlife.nc. Plus d'informations sur la page Facebook La Nouméa NOPT.
L'événement familial, le Festival international de magie du 11 au 13 septembre au Centre culturel du Mont d'Or. Des tours de magie incroyables pour petits et grands. Ne manquez pas ce Festival de magie les 11, 12 et 13 septembre au Centre culturel du Mont d'Or. Billets en vente sur ticket.nc.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Moins d'une semaine après la reprise des bombardements au Moyen-Orient, les prix des carburants atteignent une nouvelle fois des sommets. Le litre d'essence n'a jamais été aussi cher depuis le début de la guerre, c'était fin février. 2,90 euros, soit 346 francs pacifiques le litre en moyenne en métropole. En pleine escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran, les cours du pétrole donc remontent. Une flambée qui pourrait bien se poursuivre. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
C'est en tout cas la crainte de Michel-Édouard Leclerc. Ce matin sur LCI, le patron des hypermarchés a dit se préparer à un prix du litre à 2,40 euros, même si, dit-il, ça n'arrivera peut-être pas. En ce qui concerne le samplon 95, le prix flirte déjà avec le record historique de juin 2022. Au début de la guerre en Ukraine, il avait atteint 2,10 euros. Situation préoccupante aussi pour le gazole, carburant le plus consommé en France. Au-delà d'Hormuz, l'approvisionnement mondial est perturbé par l'arrêt des exportations russe. Le litre s'affiche actuellement à 2,25 euros, en hausse de plus de 30% depuis le début du conflit et tout proche du record à 2,30 euros atteint au mois d'avril. Quelques jours après la reprise des bombardements, le cours du baril semble se stabiliser à un niveau élevé, 95 $ environ. Tant que la guerre se poursuit, les perspectives d'une baisse des prix sont minces. Pour alléger la facture, les automobilistes peuvent toutefois compter sur le plafonnement des prix dans les stations Total Energy et sur la prolongation jusqu'à fin septembre du dispositif gouvernemental d'aide aux grands rouleurs.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Les policiers appelés à se mobiliser en masse le 15 septembre prochain. Des manifestations d'ampleur sont annoncées par les syndicats après une réunion avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Les échanges n'ont pas calmé la grogne des fonctionnaires qui réclament une hausse significative du budget annuel de la police. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Devant les grilles de la place Beauvau, Fabien Van Emmelric, patron du syndicat de police Alliance, fait grise mine.
On savait qu'on n'allait rien obtenir. Il n'y a plus de dialogue social, on ne respecte plus la police. Comment voulez-vous qu'une certaine catégorie de la population respecte la police si le Premier ministre lui-même ne donne pas des gages de confiance, de respect, de considération vis-à-vis des policiers?
Avec d'autres syndicats comme Unité, il réclamait des moyens supplémentaires pour la police avec par exemple la revalorisation des primes de risque mais aussi plus d'argent pour la filière investigation, un coût total que les syndicats ont chiffré.
On parle de 500 millions, on est en train de dépenser des milliards à tout va pour tout le monde. On donne à des associations sans polémique aucune avec une augmentation constante depuis 10 ans avec peut-être des fois des subventions à hauteur de 1 milliard. Les chiffres on les a. Moi je parle de centaines de millions d'euros pour que le collègue soit enfin un tout petit peu reconnu.
Le bras de fer est donc engagé entre syndicalistes, policiers et la place Beauvau. À l'appel d'Alliance, une première mobilisation est d'ores et déjà prévue à Paris. Ce sera le 15 septembre prochain.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Dans l'actualité également ce matin, le gouvernement qui a dévoilé la nuit dernière son plan d'urgence pour aider des dizaines de milliers d'exploitations agricoles en péril. Au sortir d'un été marqué par la sécheresse et les canicules, 1 milliard d'euros sont mis sur la table par le gouvernement. Oui, mais la présidente de la coordination rurale Pays de Loire, Natacha Guillemet, redoute des annonces sans lendemain.
Il faut que cette somme, elle arrive dans les portefeuilles déjà des agriculteurs. Et il ne faut pas qu'elle arrive en 2027 ou 2028. Dans les 30 jours, il faut que ça arrive sur les comptes bancaires des agriculteurs. Pour moi, ce milliard répond à l'urgence. Je vous promets qu'aujourd'hui, dans les campagnes, il y a le feu. Il y a le feu dans les exploitations au niveau des agriculteurs qui n'en peuvent plus. Ça bouillonne. Et parfois, c'est des bouillons internes. Et quand ça explose, on perd l'un des nôtres, quoi. L'annonce, c'est bien. Maintenant, il va falloir mettre en place ces annonces parce qu'à un moment donné, il faut savoir qui on veut sauver, quoi.
Natacha Guillemet, la présidente de la coordination rurale Pays de la Loire. 62% des Français favorables à l'organisation d'un référendum sur l'interdiction du voile. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa pour le Figaro. Proposition mise sur la table par le Rassemblement national qui promet de consulter les Français sur le port du voile en cas de victoire de Marine Le Pen en 2027. Cette mesure a largement animé, vous le savez, les débats politiques ces derniers jours. En ce début de campagne présidentielle, Jacques Soreil.
Tout est parti dimanche de Jean-Philippe Tanguy. Le député affirme alors que la question est tranchée au sein du RN en cas de victoire en 2027.
Nous sanctionnerons le port du voile aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté.
Le lendemain, moment de flottement au sein du RN. Jordan Bardella précise la ligne. Aucune interdiction immédiate. Ce sont les Français qui trancheront par référendum. La proposition est critiquée par les candidats à la présidentielle. Gabriel Attal, Édouard Philippe, mais aussi le LR Bruno Retailleau.
On sait que juridiquement, ça n'est pas possible et on sait que nos policiers, nos gendarmes, ils ont autre chose à faire.
De son côté, la France Insoumise dénonce une proposition, je cite, « sexiste et islamophobe ». Mais derrière la polémique, un chiffre reste, selon notre sondage CSA, 60% des Français sont favorables à l'interdiction du voile dans l'espace public et 53% approuvent le principe d'une amende.
Jacques Soreil du service politique d'Europe 1. Bref, en métropole, une femme tuée sur la voie publique dans la commune de Plourin-les-Morlaix et son fils grièvement blessé. L'agresseur s'est retranché dans un immeuble après les faits. L'homme a finalement été interpellé. Il a en fait été héliporté dans un état critique. Le procureur de la République de Brest a indiqué tôt ce matin pour nous que le forcené présentait une blessure au niveau de la tête, laissant supposer une tentative de suicide. Fin de citation. L'actuel maire de Paris, nommément visé par une plainte pour mise en danger délibéré de la vie d'autrui. 16 familles victimes du scandale du périscolaire parisien ainsi que l'association MeToo École accusent Emmanuel Grégoire d'inaction face aux alertes concernant la présence de prédateurs sexuels parmi les adultes chargés de l'encadrement des enfants scolarisés dans la capitale. Cette procédure vise également l'ancienne maire de Paris, Anne Hidalgo, et son premier adjoint de l'époque, Patrick Bloch. Le siège des services de sécurité ukrainiens touché par une frappe russe en plein centre de Kiev. Un drone s'est écrasé sur le bâtiment principal. C'est le bureau du chef du SBU qui était directement visé. Il n'était pas sur place au moment de l'attaque. Le chef de la diplomatie ukrainienne dénonce une grave escalade au moment de la reprise des efforts de paix alors que des émissaires de Donald Trump sont attendus ce dimanche à Kiev et puis à l'étranger toujours. 3 mois après l'adoption du règlement retour visant à faciliter les expulsions de migrants illégaux à l'échelle européenne, le Danemark, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Grèce font état aujourd'hui de discussions avancées avec des pays tiers afin de mettre en place des hubs de retour dès le début de l'année prochaine. Ces centres de rétention construits en dehors des frontières des 27 seraient consacrés à l'accueil des demandeurs d'asile déboutés. Il est 7h24, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive et la météo qui a l'air plutôt sympa de votre week-end.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain 5 route de la Baie des Dames à Ducos. Profitez-en. DCSM réouvre le samedi matin de 8h à 11h.
Gagnez 100 000 francs de bons d'achat à dépenser comme vous voulez, où vous voulez. Envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, 100 000 francs sont à gagner. Et chaque SMS est pris en compte pour le tirage au sort du million. Envoyez RRB au 4020. Bonne chance. 371 francs par SMS. Règlement à l'accueil de la radio.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
Allez, l'actualité sportive, on commence avec du football, troisième journée du championnat de France de Ligue 1, avec le déplacement d'Auxerre ce matin sur le terrain de l'Olympique Lyonnais.
Les Lyonnais qui n'ont pas fait dans le détail pour l'emporter contre les Auxerrois, 3-1, deux premières réalisations à la demi-heure de jeu, un troisième but à la 53e qui permet à Lyon de prendre provisoirement les commandes du classement. Auxerre, à l'inverse, se retrouve lanterne rouge. En ce moment même, un beau choc, le PSG champion de France en titre qui reçoit l'AS Monaco, troisième. Les Parisiens, on le rappelle, restent sur deux matchs nuls consécutifs. Ils n'ont pas encore trouvé le chemin de leur première victoire dans ce nouveau championnat de France. Ils doivent donc tout faire pour reprendre la main sur ce début de saison. Et le score est de 1-0 après 60 minutes de jeu. L'ouverture du score des Parisiens signé Marquinhos à demi-heure de jeu et les Monégasques qui viennent à l'instant d'égaliser dans cette rencontre sur la pelouse du Parc des Princes.
Le sport collectif encore avec ce week-end, la reprise du championnat de France élite de rugby.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14, à vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Le Top 14 avec donc une nouvelle saison qui débute demain matin. Six rencontres seront au programme ce dimanche.
Oui, qui sera en mesure de disputer le leadership au Stade Toulousain en course pour un cinquième bouclier de Brennus consécutif. Toulouse sera bel et bien l'équipe à abattre, mais la concurrence les attendra au tournant à l'image des Montpellierains qui ont terminé le dernier exercice à la deuxième place. Leninouchi est le capitaine du MHR.
On peut faire quelque chose comme les 13 autres équipes. Tout dépend l'état d'esprit qu'on a sur ce début de saison. Après, Toulouse, ça fait 4 ans qu'ils sont champions, donc le favori, il n'y a pas de grande surprise, ça sera Toulouse. Mais voilà, je pense que sur un match et un match de phase finale, tout peut se jouer. Donc on a le temps, c'est dans très longtemps les phases finales, d'avoir performé pendant toute la saison. Après, c'est sûr que le favori, ça sera Toulouse, et je pense pendant encore très longtemps, ça restera Toulouse. Justement, ça permet aussi à tous les autres clubs d'élever leur niveau et pouvoir essayer de les concurrencer sur une saison.
Les 6 premiers matchs demain matin à partir de 4h, Bayonne contre Toulon, Castres qui accueillera Vannes, le promu de retour dans l'élite. Lyon fera face à Clermont, Montpellier justement sera opposé à la section paloise. Le Stade français fera face à Perpignan et l'Union Bordeaux-Bègles retrouvera le Racing 92. Lundi matin, le Stade toulousain sera sur la pelouse de La Rochelle.
En basket, Mickaël, les Bleus lancent aujourd'hui leur Coupe du Monde.
Oui, les tricolores qui sont opposés aux Hongroises, début de mondial pour le moment sans accroc. Les Bleus ont largement pris l'avantage dans le troisième quart-temps, 62-22 face à la sélection de Hongrie. Dès demain, les Françaises affronteront cette fois les Sud-Coréennes pour le compte de la deuxième journée du groupe B.
Du tennis avec la suite de l'US Open.
Et une défaite aujourd'hui pour un tricolore. Sans surprise, Arthur Rinderknecht n'est pas parvenu à passer le troisième tour. Défaite face au Russe Daniil Medvedev, tête de série numéro 7, 6-4, 6-4, 6-4. D'autres tricolores à suivre demain. Arthur Géa, le vainqueur du dernier Open de Nouméa, qui affrontera l'Américain Michael Zeng. Benjamin Bonzi fera lui face au Russe Karen Khachanov.
On passe au cyclisme avec la 13e étape du Tour d'Espagne. Le Belge Wout Van Aert s'est imposé au sprint.
Oui, le coureur de la Visma l'a emporté devant le jeune Français Valentin Paré-Peintre. C'est le premier succès du Belge cette année sur la Vuelta, sa 4e victoire en carrière sur le Tour d'Espagne. Au classement général, l'Espagnol Enric Mas roule toujours avec la tunique rouge de leader, 1 minute 45 secondes de mieux que le Slovène Primoz Roglic.
Les sports mécaniques avec la Formule 1 et le Grand Prix d'Italie.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et lors des essais libres à Monza, c'est George Russell qui a signé les meilleurs chronos.
Oui, meilleur temps devant les Ferrari qui avaient dominé la première séance. Le pilote Mercedes a devancé Charles Leclerc et son coéquipier des Flèches d'Argent, Kimi Antonelli, troisième. On devrait retrouver la Scuderia et les Mercedes pour une belle bataille lors des qualifications. Lando Norris sur McLaren, c'est lui classé quatrième devant l'autre Ferrari de Lewis Hamilton. Côté français, Pierre Gasly a signé le 14e temps, Esteban Ocon le 18e chrono. Esteban Ocon, le pilote Haas, espère que les améliorations sur sa monoplace vont porter leurs fruits.
Je suis prêt à voir comment cette nouvelle voiture bien updatée va fonctionner. Quasiment tout qui a changé à part l'aileron avant. J'aurai pas le nouveau moteur, malheureusement, ça ira sur la voiture d'Oli, donc on va perdre pas mal de temps en course avec ça. Mais en tout cas, voilà, hâte de conduire cette nouvelle voiture, voir si on peut se rapprocher et fight avec les Alpines, les Racing Bulls et les Audi encore.
Qualification à suivre la nuit prochaine à partir d'1h du matin pour nous. Le Grand Prix demain soir, départ à minuit. prix. À noter que ce Grand Prix de Monza a été l'occasion d'officialiser une décision relative au Grand Prix de Monaco. Et le pilote français d'Alpine, Pierre Gasly, arrivé troisième, qui avait d'abord été pénalisé, son équipe avait fait appel. La semaine suivante, il avait récupéré les 15 points de la troisième place. Sauf que McLaren et Red Bull ont de nouveau contesté cette décision. Eh bien, la cour d'appel vient de rendre son verdict. Pierre Gasly retrouve le classement originel. C'est un autre tricolore, Isaac Hadjar, actuellement blessé, qui termine donc troisième du dernier Grand Prix de Monaco. Pierre Gasly, pour deux pénalités durant la course, se retrouve septième.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Il y a 30 ans, il y a Alain Prost qui avait été mis dans un baquet par Ayrton Senna. On lui a pardonné un titre de champion du monde. Enfin bref, le sport en Calédonie, le 43e marathon international mobile de Nouvelle-Calédonie est prévu demain dimanche.
Ouais, près de 1500 personnes attendues avec la course reine, évidemment le marathon, mais également le semi-marathon, le 10 km Tokoyama et le challenge Agnès Bernière, course réservée aux enfants. Jérôme Troya est le président du comité d'organisation.
Nous attendons avec impatience encore des inscriptions. Nous espérons avoir à peu près 1500 personnes, comme l'an passé. Beaucoup de militaires, parce que nous avons peu d'avions et peu d'étrangers, mais quand même 14 nationalités représentées. Ça va du portugais, en passant par la vénézuélienne, en passant par les Italiens, les Allemands, les Japonais, bien sûr, Australiens, Néo-Zélandais. Pour ceux qui ont fait celui de l'an dernier, il n'y a aucune surprise, c'est la même chose. On espère que ce seront des Calédoniens qui gagneront.
On signalera que la mairie de Nouméa mettra en place des restrictions temporaires, évidemment, de circulation et de stationnement le temps des courses, notamment sur la promenade Pierre Vernier, mais aussi sur la promenade Roger Larocque. Toutes les informations disponibles sur le site internet de la ville de Nouméa.
Un petit mot de hippisme également avec la 7e et avant-dernière réunion de la saison. Ça se passe aujourd'hui à Boulou-Paris. Réunion qui est organisée par le comité hippique du Nord. 10 courses au programme avec notamment le Grand Prix de la Province Nord à 15h30. On jette un coup d'œil aux autres rendez-vous du week-end, Mickaël.
Les championnats de Calédonie de bodybuilding, ça sera demain après-midi. Rendez-vous donné à partir de 16h au Centre culturel du Mont d'Or. Aujourd'hui, du karting à Nakutakoin, la troisième manche du championnat territorial. Du futsal avec 3 matchs tout le week-end à la salle Jacques Wawanabou de Lanzvata, FC Ferrand SC Negeu, ASWH ASPTT et demain SC Negeu Zéolil Futsal. Du cyclisme, la première édition du Red Graven C, ça se passera demain au parc provincial de la Rivière Bleue. Les sports de raquettes, du padel et du squash tout le week-end à l'Olympique. Un P50 et un P250 messieurs en padel et l'Open intermédiaire en squash. En mer, un concours de pêche est prévu aujourd'hui à Koumac. Concours de pêche au gros à l'occasion de la fête du nautisme. Et puis, on signalera que la Ligue calédonienne de handball organisera demain à dimanche les tests d'entrée au Pôle Espoir de Nouvelle-Calédonie de 9h à 16h à la stalle Ernest Waiwo de Dimbéa.
Page au sport signé Mickaël Juniski. Allez, on termine ce journal avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et mur depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et NGA. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Bien, 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 les grimoires viennent de nous dire ce qu'il va se passer pour ce week-end et notamment pour cette journée de samedi. Ismaël, alors ça commence très bien, pas de vigilance particulière et alors... Pour ce matin, du soleil, en veux-tu, en voilà.
Une matinée bien ensoleillée dans l'ensemble. En revanche, quelques nuages circulent sur l'île des Pins, la pointe sud, l'est et les Loyautés. Et de petites ondées circulent encore aux premières heures de la matinée sur la façade est, mais rien de bien méchant. L'alizée d'est-sud-est souffle entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur l'extrême nord et 5 à 10 nœuds sur l'ouest en début de matinée.
Et le soleil est encore présent cet après-midi.
Mais principalement sur les façades littorales. Les nuages deviendront plus nombreux sur la chaîne où ils occasionneront quelques ondées. Certains déborderont localement vers les côtes en fin d'après-midi. Le vent de sud-est se renforcera de 15 à 20 nœuds, dépassant localement les 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds sur le sud-ouest. En revanche, il sera souvent moins fort sur la pointe sud et l'île des Pins avec 10 à 15 nœuds. Les températures sur la journée, elles varieront peu par rapport à celles de la veille et s'échelonneront de 23 à 26 degrés.
Et si nous jetions un tout petit coup d'œil à la nuit prochaine ?
Sur l'ouest et la pointe nord, les étoiles seront bien visibles. Ailleurs, les passages nuageux deviendront plus importants en fin de nuit. nuit avec quelques averses sur le nord-est. Le vent s'orientera à l'est, mollissant de 10 à 15 nœuds en cours de nuit. Il restera tout de même plus fort sur la pointe nord et le nord-est, mais deviendra faible de 5 à 10 nœuds en fin de nuit sur l'ouest. Peu de changements hein, côté Mercure, autour de 17 à 19 degrés, mais moins dans les terres, de 12 à 15 degrés.
Ah quand même. Merci beaucoup Ismaël pour cette météo complète de ce samedi, la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi.